Radio Okapi.
Le journal présenté par Belinda Bosuma.
La RDC occupera la présidence d'AfricaWays pour un mandat de 2 ans. Ceci ressort de la 33e session ordinaire de cet instrument de l'Union africaine tenu durant 3 jours à Madagascar. Motif de fierté pour le ministre Gilbert Kabanda qui a regagné Kinshasa avec une moisson abondante, vous l'entendrez. Près de 100 000 habitants sur 165 000 n'ont pas accès à l'eau potable depuis plusieurs années. Cela se passe dans la zone de santé de Biéna, territoire de Lubero au nord Kivu. Du coup, les habitants sont exposés à des maladies d'origine hydrique. Le médecin chef de zone lance une alerte aux autorités compétentes. Le festival Amani a vécu ce week-end à Goma, une occasion de faire valoir la paix dans la région. La population de Goma et environ a eu droit à 2 jours de musique, danse et art. La ministre de la Culture et des Arts était également de la partie. Yolande Elébé est l'invité de ce journal. À tous et à toutes, bonjour. La République démocratique du Congo occupera la présidence d'AfricaWays pour un mandat de 2 ans à travers le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Ce sont les retombées de la 33e session ordinaire de cet instrument de l'Union africaine tenu pendant 3 jours à Madagascar. Un sentiment de fierté pour le ministre Gilbert Kabanda qui a regagné Kinshasa samedi soir avec une moisson abondante. On écoute le ministre de la Recherche scientifique dans cet extrait choisi par Jacques-Yves Molima.
AfricaWays signifie le riz africain. Et vous savez très bien que le riz est à la base de l'alimentation de la population africaine en très grande partie et que malheureusement ce riz est majoritairement aussi importé de l'extérieur. Avant nos indépendances, le riz n'était pas importé de l'extérieur. Après nos indépendances, le riz maintenant est importé. Depuis un certain nombre d'années, on a estimé qu'il fallait une politique du riz. Et cette politique-là du riz a commencé. Et aujourd'hui, le Congo a la responsabilité parce que AfricaWays a été conçu beaucoup plus sous l'angle recherche scientifique et innovation technologique. L'organe scientifique et technique d'AfricaWays, chez nous, c'est l'INERA. C'est à ce titre qu'en tant que ministre en charge de l'INERA, j'ai pris la présidence de cet important organisme pour 2 ans. Le signe de l'autosuffisance en riz, objectif que nous devons atteindre en définissant d'abord une bonne politique du riz.
Notez qu'avant l'étape de Madagascar, le ministre Gilbert Kabanda revenait de Sotchi où il a participé à la signature d'un accord de partenariat entre la Russie et la RDC dans les domaines les plus divers. Réduire de manière durable les besoins humanitaires en s'attaquant aux causes profondes de crise, catastrophes et conflits, c'est l'approche novatrice dénommée Nexus qu'adopte et met en œuvre le PNUD et d'autres acteurs humanitaires dans l'est de la RDC. Cette approche apparaît pour les intervenants comme l'une des stratégies efficaces adoptées dans la partie orientale du pays pour apporter une réponse efficace aux besoins et aux attentes des populations en mouvement forcé à l'intérieur de leur propre pays. Samedi, les intervenants humanitaires autour de l'ambassadeur de Suède ont échangé autour de cette question. Mais en quoi consiste l'approche Nexus? Explication du chef du bureau des PNUD dans l'Est, Patrick D'Oliveira, au micro de Denise Lukesso.
L'approche Nexus, c'est une méthode de travail que nous adoptons pour réduire de façon durable dans le temps les besoins humanitaires en s'attaquant aux causes profondes de tout ce qui a pu créer cette situation de crise. Donc, en même temps qu'on est en train de faire de la protection pour ces personnes qui sont devenues vulnérables, comment est-ce qu'on est en train de régler les problèmes en amont qui ont fait que ces personnes se retrouvent dans cette situation? Et c'est de la seule manière qu'on peut financer toutes les activités humanitaires en termes d'accès aux services sociaux de base, de dignité, de protection aux personnes qui en ont besoin. On est en train de travailler en même temps sur les causes qui ont créé cette situation. Dans une situation de crise humanitaire, loin de penser qu'il faut arrêter les investissements et les activités de développement, ce serait une erreur. de ne pas concilier en même temps, de façon combinée, la poursuite de tous les efforts en termes d'investissement du développement à côté d'une recherche en termes de progrès sur les questions des dynamiques de paix et en même temps ne pas oublier le volet humanitaire.
Sud Kivu, l'association des élèves et étudiants ressortissants du territoire de Walikale et vivant à Bukavu s'indigne de l'avancée des rebelles du M23 dans leur territoire. Le vécu quotidien de ces ressortissants devient hypothétique pour la simple raison que leurs familles sont dispersées et ne vaquent plus aux activités qui leur permettent de régénérer des revenus pour la prise en charge des frais d'études et de la ration alimentaire de leurs dépendants. Dans un message adressé au gouvernement congolais, les élèves et étudiants de Walikale et vivant à Bukavu se déclarent moins satisfait des actions militaires des FARDC contre la rébellion à Walikale. Leur président Espoir Boutera s'exprime au micro de Jean Kassami.
Nous nous sommes tellement inquiets sur l'avancement très rapide des rebelles M23. Même la connexion entre nous et nos familles, ça devient tellement difficile. Ils sont éparpillés un peu partout dans la forêt, là où ils n'ont pas de position. Nous nous posons beaucoup de questions de savoir au fait c'est quoi les rôles du pouvoir en place par rapport à cette guerre imposée par nos agresseurs. Nous rendons hommage aux jeunes leaders qui se donnent du jour au jour d'aller combattre les rebelles, mais il manque le soutien. Le président de la République avait accepté le jeune leader avec FARDC afin qu'on puisse combattre les rebelles M23. Mais nous sommes tellement surpris de voir les gens qui se comportent comme des traîtres. Même si le président peut avoir bonne volonté pour défendre le pays, comment aujourd'hui cette guerre peut persister comme ça, alors que nous avons des Congolais qui sont tellement forts, nous avons des guerriers au Congo, mais ce que nous manquons tout simplement c'est le soutien, mais aussi la bonne volonté des gens qui nous dirigent.
Je vous l'ai dit dans les titres, au Nord Kivu, dans la zone de santé de Biena, territoire de Lubero, près de 100 000 habitants sur une population totale de 165 000 n'ont pas accès à l'eau potable depuis plusieurs années. Ce manque d'eau expose les habitants à des maladies d'origine hydrique, telles que la diarrhée et la fièvre typhoïde. Le médecin chef de zone, le docteur Valentin Kamoua, indique que seulement 38% de la population bénéficie d'un approvisionnement en eau grâce à quelques sources aménagées. Il sollicite des efforts de la part des autorités compétentes pour améliorer l'accès à l'eau potable dans la région. Docteur Valentin Kamoua, joint par Martial Papi Mukeba.
Par rapport à la couverture en eau de la zone de santé de Biena, cette couverture est encore faible. Elle est de 38% pour une population estimée à 165 854 habitants. Donc, une grande partie de la population n'est pas couverte en eau. Et cela a pour conséquence la survenue des maladies d'origine hydrique et surtout la diarrhée, mais aussi la fièvre typhoïde. Nous avons des addictions d'eau dans certaines agglomérations, comme l'agglomération de Ndiapanda, de Biamboué, de Kirao, Musenge et Massoya. Et une autre partie de la population se dirige vers les sources des vallées, dont la plupart ne sont pas aménagées. Donc voilà le risque que court la population. Nous demandons à la population de faire l'entretien de ces points d'eau qui existent. Et nous lançons un cri d'alarme à toute personne de bonne volonté qui peut nous venir en aide pour accroître la couverture en eau au niveau de la zone de santé.
Et puis, les membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, donateurs et autres, sont engagés sur les objectifs de la stratégie mondiale de l'OMS pour l'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030. C'est ce qui ressort des résolutions du Forum national pour l'élimination du cancer du col de l'utérus, forum clôturé vendredi à Kinshasa. Pour y arriver, Polydor Mbongani, coordonnateur national du Conseil national de la couverture santé universelle, invite les participants à ses assises à multiplier des stratégies de prévention en intégrant notamment des tests de haute performance pour sauver les vies des femmes. Polydor Mbongani l'a dit au micro de Stanislas Diumi.
Vraiment une opportunité pour nous, pour que nous fassions avancer cette cause au niveau des provinces et que nous donnions aussi cette responsabilité de la lutte contre le cancer, l'élimination du cancer du col, de l'utérus et du sein aux responsables provinciaux aussi. Comme vous le savez, nous travaillons dans le cadre de la multisectorialité, donc nous allons aller au-delà des interventions qui peuvent être limitées au secteur de la santé, d'où l'importance d'avoir, par exemple, le gouverneur de province, d'avoir les présidents d'assemblée provinciale parce que ils vont porter le message au large. Il ne sera pas limité au seul secteur de la santé. Nous allons donc nous mettre ensemble, chacun dans son rôle, ceux qui vont travailler dans la prévention, déjà ceux qui vont travailler dans la sensibilisation. Je vous félicite déjà pour ce premier pas qui a en fait une sensibilisation qui a déjà commencé. Donc, ceux qui vont travailler dans la sensibilisation, ceux qui vont travailler dans la prévention avec la vaccination.
Sachez que ce forum a été financé par plusieurs partenaires, dont la Banque mondiale à travers le programme multisectoriel de nutrition et santé, un projet du gouvernement congolais. Pendant ce temps, dans la province de la Tchopo, des associations à base communautaire s'engagent dans la lutte contre la variole de singe ou monkeypox. C'était à l'issue d'un atelier organisé du 15 au 16 novembre par la Division provinciale de la santé avec l'appui d'Enabel. En impliquant diverses couches sociales dans la lutte, la Division provinciale de la santé Tchopo voudrait casser la chaîne de transmission afin d'endiguer, sinon de réduire le nombre des cas de monkeypox qui prend l'ampleur dans cette province. Compte rendu de Jacques Moukonkole.
120 personnes ont pris part à cet atelier organisé par la Division provinciale de la santé. Selon le coordonnateur du programme de communication à la DPS, John Mundele, ces acteurs ont été outillés afin de s'impliquer notamment dans la surveillance à base communautaire afin que toute personne présentant des signes du Mpox soit acheminée rapidement dans un centre de santé le plus proche.
La riposte, c'est pas le problème de tierces personnes. Il faut informer la communauté pour qu'elle-même prenne ses décisions éclairées pour que demain, ils soient à l'abri de cette maladie.
Grâce aux notions apprises, les participants disent être suffisamment outillés, à l'instar d'Amos Boutangazi, coordonnateur des associations des taximen moto, qui déclare qu'il est maintenant bien informé de cette maladie dont il doutait l'existence.
Je suis maintenant aujourd'hui informé que Mpox existe. Nous allons vraiment donner des résultats positifs.
Solange Kalokola de la Division provinciale de pêche et élevage s'engage elle aussi à la sensibilisation de la communauté.
De ces derniers temps, on est sur terrain pour sensibiliser, pour lutter contre une Mpox.
Le taux de létalité est estimé à 4,8% dans cette entité est l'un des six premiers les plus élevés au pays, affirme John Mundele. À ces jours, 2155 cas ont été notifiés, dont 104 décès dans la Tchopo, souligne ce cadre de la DPS. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Province du Maniema, installation vendredi à l'ISTEM Kindu du comité d'éthique de recherche des sciences de la santé, composé de 15 membres dont 3 femmes. Ce comité sera dirigé par le professeur doctorant Imani Ramazani comme président pour un mandat de 3 ans renouvelable. Ce comité a pour mission, entre autres, d'analyser les protocoles de recherche. Imani Ramazani explique au micro de Florence Kizalunga.
Ce comité aura comme mission notamment d'analyser les protocoles de recherche pour s'assurer qu'ils respectent les principes éthiques, mais également la protection des participants pour garantir les droits, la dignité, le bien-être entre les participants à la recherche, que ces biens soient préservés en veillant à ce qu'ils soient informés de manière adéquate et qu'ils participent volontairement à cette étude-là. Élaborer les recommandations, de sensibiliser et de former les chercheurs, mais aussi de faire le suivi des études qui sont en cours, mais également évaluer les conflits d'intérêts éventuels, analyser et gérer les plaintes et faire la révision des politiques d'éthique. En fait, pour aboutir à avoir un avis éthique pour garantir que cette recherche soit réalisée en respectant les normes et les principes éthiques. Et donc, les chercheurs de l'ISTEM Kindu, qui sont des étudiants master, des doctorants et des chercheurs de d'autres établissements d'enseignement supérieur universitaire, vont pouvoir déposer leur protocole de recherche et vont solliciter l'avis éthique avant de réaliser leurs recherches sur le terrain.
Rendons-nous en Ituri. Plusieurs avenues des différents quartiers de la ville de Bunia en pleine expansion ne portent pas de nom, ce qui ne facilite pas les interventions des services de sécurité ou des ambulances pendant les urgences, affirment les habitants. Certaines avenues portent les noms de leurs premiers occupants. Au mépris des dispositions légales, les habitants de ces différents quartiers de Bunia demandent aux autorités compétentes de réglementer cette situation qui constitue un défi pour la sécurité de la ville. C'est un reportage de Nelly Kataka.
C'est depuis près de 10 ans que l'Itourie est érigée en Provence. Le nombre de quartiers est passé de 12 à 24 avec 3 communes qui ont été officiellement baptisées. Mais plusieurs nouvelles avenues et rues qui se sont créées n'ont pas de dénomination. Les habitants déplorent cette situation qui ne leur permet pas de déterminer leur adresse. Pire encore, en cas de deuil, de maladies graves et de cambriolages pendant la nuit, il est difficile d'orienter les patrouilleurs et l'équipe d'intervention sanitaire. Une dame explique les risques qu'ils courent au quotidien.
Si vous êtes attaqué par les bandits, ça sera difficile de contacter les agents de sécurité. Ça arrive à un moment de tomber malade pendant la nuit. Ça sera difficile aussi de contacter l'ambulance. Tu n'as pas l'adresse exacte. Tu ne connais pas l'adresse toi-même. Comment tu peux contacter, donner l'adresse pour venir vous secourir? Ça sera difficile.
Pour l'autorité urbaine, la nomination des rues se fait de manière progressive car la ville est en pleine urbanisation.
Il y a certaines chefferies qui sont incorporées dans la ville. Nous devons maintenant urbaniser et puis donner les noms des avenues. Quand nous étions venus ici, il n'y avait même pas de numéro. Quand vous cherchez quelqu'un, c'était difficile pour le retrouver. Pour une avenue, vous pouvez aller voir les chefs de quartier, ou les chefs d'avenue. Ils peuvent mettre votre nom pour cette avenue-là. Ce n'est pas une chose qui est légale. Il n'y a pas un préfixe que même nous, nous ne pouvons pas donner.
Bounia, Nelly Kataka, Radio Okapi.
Actualité internationale. Les Gabonais ont voté massivement pour le oui au référendum constitutionnel de samedi 16 novembre. Selon le ministre gabonais de l'Intérieur, 91,80% des votants ont voté pour la nouvelle constitution contre 8,20% pour le non, a-t-il annoncé dimanche soir. Le taux de participation est de 53,54%.
L'invité.
Il s'agit de la ministre de la Culture et des Arts, Yolande Elébé, est arrivée dimanche matin à Goma pour participer à la 10e édition du festival Amani. Elle dit venir avec un message de solidarité à la population du Nord Kivu victime de guerre. La ministre partage ici son appréciation du festival Amani qui s'est clôturé hier soir. Elle est avec Rosalie Zawadi.
Madame la ministre, bonjour. Quel message apportez-vous à cette 10e édition du Festival Amani?
Bien, j'ai fait passer d'abord un message de félicitations aux organisateurs du Festival Amani pour leur résilience, pour leur pugnacité, pour le fait qu'ils ont réussi à tenir jusqu'à la 10e année et on leur souhaite de pouvoir encore continuer. On reviendra fêter les 20 ans. C'était un message du soutien déjà du gouvernement au festival Amani, en tout cas aux organisateurs, et aussi un message de soutien, de solidarité à tous les habitants du Nord Kivu.
Alors, le festival Amani a pour slogan, depuis sa création, danser pour les changements, chanter pour la paix. Comment, à votre niveau, appréciez-vous la relation entre la culture et la paix?
Mais le rôle de la culture est central, parce que la culture, c'est justement l'expression de ce que nous sommes et de ce que nous voulons et de nos aspirations. Et c'est ce que font les artistes. Et les artistes le font déjà. Le fait non seulement de condamner, non seulement de porter la voix des sans-voix, mais aussi de porter un message d'espoir. Celui de voir la guerre se terminer, celui de voir la justice prendre sa place, celui de voir les victimes se relever, celui de voir la paix. Donc c'est un message que moi, de tout ce que je lis, de tout ce que je vois des artistes au niveau du Nord Kivu, c'est le message. Et pour moi, la culture, c'est vraiment un canevas qui apporte la paix. C'est vraiment un canal pour apporter la paix. Parce que le message passe avant tout par la culture.
Et quel message adressez-vous aux jeunes artistes qui sont témoins de tout ce que la province du Nord Kivu est en train de traverser depuis des décennies?
Mais c'est un message, comme j'ai dit, de solidarité. C'est un message de félicitations, parce que comme je le dis souvent, les artistes, nous devons être les témoins de notre temps. Ce qui se passe pendant notre époque, nous devons l'exprimer. Ça peut être par écrit, ça peut être par une chanson, ça peut être par un film. Nous devons être les témoins de ce que nous voyons, et nous le sommes. Et donc, qu'est-ce que je dis aux artistes du Nord Kivu? Je leur dis d'abord bravo parce que j'ai la chance d'avoir vu beaucoup d'œuvres, que ce soit des œuvres des plasticiens, que ce soit des livres, que ce soit des vidéos et autres. C'est l'une des régions que je trouve très, très, très prolifique. On sent de la qualité, mais on sent surtout ce besoin de s'exprimer qui est normal. Quand on se trouve dans une situation difficile, on veut l'exprimer. Et c'est bien que nous ayons tous ces témoignages de manière culturelle, parce que c'est des choses qui vont rester et moi, tout ce que je peux leur dire, ne baissez pas les bras et on est avec vous. On connaît les difficultés et d'ailleurs demain je vais avoir un échange avec les artistes pour voir de quelle manière encore nous pouvons les aider à continuer malgré la situation à produire les œuvres magnifiques qu'ils produisent depuis toutes ces années.
À Goma, les événements culturels sont menacés. La 10e édition du festival a failli être annulée. Oui. Quel soutien à l'art, à la culture du Nord Kivu qui est en danger?
La culture au Nord Kivu n'est pas en danger. Pour preuve, le festival se tient. Il y a eu, oui, une menace qui était motivée. Bon, maintenant, on a réussi à régler le problème. Le festival s'est tenu. Parce que justement, le chef de l'État a dit que le festival doit se tenir. Il comprend le rôle de ce festival. Il comprend que ce festival a une portée, hein, non seulement nationale, mais internationale. Il comprend que les artistes ont besoin d'une plateforme comme celle-ci pour s'exprimer. Et donc, en père de la nation, il a porté de tout son poids sa décision que le festival doit avoir lieu. Et nous sommes là et nous sommes heureux que le festival se tienne. Donc, la culture n'est pas en danger.
Et votre vœu pour la 11e édition
du festival? Que ce soit encore plus grand. Voilà. On ne peut souhaiter que le meilleur. Et moi, vous parlez du 11e, moi je parle du 20e. Donc vous voyez, je vois plus loin que vous. Donc je crois plus loin que vous. Voilà.
Madame la ministre, merci.
Merci.
La ministre de la Culture et des Arts, Yolande Elébé, répondit aux questions de Rosalie Zawadi. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.